Donc, avant, il y a une petite question, je vais y répondre. Père, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par perdre son innocence? Perdre son innocence. Une très bonne question. Qu'est-ce que c'est perdre son innocence? Ben, si vous ne le savez pas, vous vous regardez et vous voyez que vous avez perdu votre innocence. On a tous perdu notre innocence. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés par Dieu dans l'innocence. Nous avons été créés par Dieu, comme dit le pape, dans une innocence divine absolue. Avec cette grâce originelle qui a été la marque de l'acte créateur de Dieu, lorsqu'il nous a créés dans le sein maternel, ça a été merveilleux, ça a été merveilleux, il nous a créés dans cette présence vivifiante. Ah oui, une présence merveilleuse et vivifiante. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire réponse de Sainte Thérèse d'Avila. À un moment, Sainte Thérèse d'Avila dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que... Pourquoi a-t-on besoin vraiment d'une purification, d'une... Ouais, hein, c'est pas là. Et vous savez comment ça s'est passé pour Thérèse d'Avila? Lorsque son supérieur lui a dit, écoutez, s'il vous plaît, vous êtes très sympathique, à l'âge de 47 ans, 47, rappelez-vous, n'est-ce pas? À l'âge de 47 ans, Thérèse d'Avila a connu la mort. Elle était carmélite, mais enfin, ce beau parloir, ah, salut, Dieu gracia, c'est tout, formidable. Elle était très sympa, charmante, Thérèse d'Avila, pétulante, personnalité, incroyable. Elle a un succès fou, quoi. Apostolat formidable. Et puis, elle est morte. Elle s'est retrouvée devant le tribunal de Dieu. Et vous le savez, ça, qu'elle a connu une première mort. Et puis que, donc, la Vierge lui a dit, « Ma fille, vous ne connaissez pas cette histoire, ma fille, puisque tu as tant d'amour pour celui qui m'a épousé, je désire que tu reviennes dans le Carmel. » Pour le renouvellement de la prière à la manière de mon époux, Saint-Joseph. C'est vrai qu'elle avait un très grand amour pour Saint-Joseph, Thérèse d'Avila. Alors du coup, elle est ressuscitée, elle est sortie de la mort. Ça n'a pas duré longtemps, je crois, un jour. Deux jours, toi tu dis. Trois jours. C'est bien. Et du coup, elle s'est dit, bon, ben, comment je vais faire tout? Elle commence à réformer le Carmel, avec la force qu'on sait. Ben, ça a été quelque chose, hein. La fondatrice de tous les Carmels qu'on a aujourd'hui, quoi. Et puis à un moment donné, ses supérieurs, bon, elle est combattue, tout ça, et puis finalement on l'accepte, et puis finalement on dit, bon, bah, écoutez, vous écrivez, hein, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la vie contemplative parfaite? Vous l'écrivez, dis, moi je sais pas, je sais rien, écrire, alors qu'est-ce que je vais écrire? C'est affreux d'écrire, qu'est-ce que je vais écrire? On est, c'est fou, hein. Alors, et à un moment, elle supplie le bon Dieu. C'était la fête de la très sainte Trinité. Vous voyez, c'était 25 ans plus tard. Non, 15 ans plus tard. À la fête de la très sainte Trinité, elle voit, elle est favorisée d'une vision, d'une révélation. Elle est emportée, elle voit d'un seul coup. Le bon Dieu lui montre quelque chose. Et le bon Dieu lui montre l'innocence. C'est beau, ça. Et c'est à partir de cette vision de l'innocence qu'elle va écrire les sept demeures de l'union transformante. Le château. Et tout le traité de Sainte Thérèse d'Avila, qui est maintenant le docteur de l'Église pour ce qui concerne de l'union transformante, les grandes étapes de l'union transformante jusqu'à la perfection. C'est le seul docteur, hein, parce que Saint Jean de la Croix, c'est un acolyte, il est là avec leurs enfants à côté, quoi. Puis il fait des... Oui, c'est la grosse, c'est la mère Thérèse. Alors il y a le petit, c'était minable, il avait 1m52, et il était laid. D'ailleurs, ses supérieurs le faisaient flageller dans le réfectoire. Il était obligé de manger sa soupe à quatre pattes devant tout le monde. C'était merveilleux, la vie de Saint-Jean de la Croix. C'était fou. Ah, il a eu une vie merveilleuse. Quelle chance il a eu. Mais Thérèse, là, c'était la madre. La madre, c'était super. Et donc, tout a commencé avec cette vision d'innocence. Je vous le lis. Celle-ci se met en prière pour demander au Seigneur ce qu'elle doit écrire. Elle est alors favorisée de la vision surnaturelle d'une âme en état d'innocence. C'est l'état dans lequel nous nous sommes trouvés quand Dieu nous a créés et qu'on était une petite cellule dans le sein maternel. Et nous avons vécu ça en pleine conscience. Ne dites pas, on n'avait pas conscience. En pleine conscience. Totalement lucide. Bien plus lucide qu'aujourd'hui. Quand on était une petite cellule. Ça, il faut le savoir. Hein. Parce que si quand Dieu nous crée, on n'est pas lucide, ça veut dire qu'il ne nous a pas créés. Point à la ligne. C'est impossible, hein, philosophiquement, si vous dites que vous n'êtes pas lucide quand Dieu vous crée, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Ça, c'est incontournable. Le reste, c'est de la poésie. Hein. Alors, je vous le lis. On a été comme ça, c'est pour ça que j'aime bien. Cette âme lui est montrée comme un globe de cristal ou un diamant très pur. Tout resplendissant, illuminé des clartés d'un foyer divin jusque dans sa matière, Dieu lui-même qui se trouve au centre. C'est écrit comme ça. On a commencé par la transfiguration, notre corps. C'est fou ça. C'est fou. Ce que dit Saint-Père le 24 février dernier. J'étais content que Saint-Père dise ça le 24 février dernier devant l'Académie pontificale. Le génome de l'homme trouve sa dignité anthropologique dans l'âme spirituelle qui vivifie et imprègne ce génome. Le génome, c'est la première cellule. C'est Dieu qui est présent dans un espèce de tabord, de cabode, et qui imprègne et vivifie dans le corps originel, l'âme spirituelle remplie de sa présence, lumineuse, lucide, bienveillance réciproquement. Et le roi se trouve lui-même, Dieu, au centre. Et du coup, quand on est écrit comme ça, vous savez, on a habité toute la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. C'est pour ça que dans notre corps, il y a cette mémoire de Dieu, comme dit saint Augustin. Grâce à notre corps, parce que notre corps a reçu ça dans la mémoire génétique. Le génome, c'est la mémoire génétique, imprégnée et vivifiée par cette lumière. Alors, faut mettre en contact Jean-Paul II et Thérèse d'Avila, et on obtient ça. C'est ça, la vie spirituelle, c'est toujours deux par deux. C'est super. Moi, ça m'enchante. Vous pouvez pas savoir comme ça m'enchante de savoir ça. Là. C'est vrai. Et c'est la base de l'espérance aussi. Hein. C'est pas du tout qu'on ne sort pas de notre thème, vous savez, quand on dit ça. Pas du tout. Hein. Ah, vous allez voir. Et oui, parce que c'est l'état de plus petite petitesse qu'on ait jamais eu. Et en même temps, de plus grande grandeur qu'on ait jamais eu. que notre âme était aux dimensions de l'omniprésence de Dieu, vivante, lumineuse, actuelle, lucide, avec cette liberté, cette agilité. Liberté. Alors regardez ça, Dieu lui-même qui se trouve au centre. Et Thérèse remarque que le globe devient de plus en plus resplendissant au mesure qu'on s'approche, du foyer. Ah oui, la vision lui montra ce magnifique globe de cristal en forme de château ayant 7 demeures. Dans la 7e demeure placée au centre se trouvait brillant d'un éclat merveilleux le roi de gloire, le créateur. Oh, qu'est-ce qui était. Et le Père, le Fils, c'est la bonne heure du bon Dieu de voir qu'on existe. Et du coup, on existe. Oh, qu'est-ce qu'on était heureux dans ce bonheur du premier moment. Il y avait aussi ce bonheur. C'est pour ça qu'on a dit, oh oui. Oh, on n'a pas dit non. Hein. Parce que quand on est en ravissement, on ne dit pas non. Ça, c'est humain, ça. Eh oui, on a commencé. Enfin, il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais demandé d'exister. Pardon. Ça n'est pas vrai. Tu as dit oui. Et un oui, alors tout détruire. En hébreu, vous savez, vous dites, je m'aime, je marche. Oui, me voici. Et c'est avec le même mot qu'on dit la présence de Dieu. Je, Elohim. Je, présence active de Dieu, actuelle et lumineuse. Je. Et puis me voici, c'est oui, éternellement. De cette gloire, toutes les demeures jusqu'à l'enceinte, jusqu'au bord, se trouvaient illuminées et embellies. Et plus elles étaient proches du centre, plus elles participaient à cette lumière. Thérèse était émerveillée par cette beauté qui réside dans notre être créé par Dieu, dans l'innocence. Et puis, aussitôt, péché originel. Alors ça. La question, c'est ça. Hein. C'est comment est-ce qu'on perd notre innocence. C'est beau. C'est... Comment est-ce qu'on perd ça, notre innocence. Je vous explique. C'est Thérèse qui voit. Bon. Alors, d'un seul coup, dans sa vision, la lumière disparut. Et sans que le roi de gloire ne quitte la demeure du centre, le cristal se couvrit d'une glu noir et obscur. Il devint noir comme du charbon et répandit une insupportable odeur. Les bêtes venimeuses qui se trouvaient en dehors de l'enceinte reçurent alors la liberté de pénétrer à l'intérieur du château. Mais au centre, 7e demeure, le roi de gloire y demeure en plénitude. Et vous voyez, aucune de ces odeurs, aucune de ces pénétrations n'atteignent la 7e demeure. Il y reste toujours. L'innocence n'est jamais perdue. Il faut aller la retrouver dans la 7e demeure. Et pour ça, il faut prendre l'innocence triomphante du Christ crucifié dans les 6 premières demeures. Pour faire que l'innocence du Fils du Verbe incarné puisse rejoindre l'innocence glorieuse de la très sainte Trinité dans son acte créateur et éternel. Et c'est à partir de là qu'elle va écrire les 7 demeures pour regarder dans quelle progression tout ça se passe. Voilà comment on perd son innocence. D'après le docteur de l'Église. Et également, pouvez-vous bien nous redire La signification des chiffres. Ah. Bon, écoutez. Bon, 4. Si vous voulez, 4. 1. 1. En hébreu, ça se dit Aleph. Première lettre. 1. 1. Aleph, c'est admiration. Silence. Adoration. Je suis seul. Et il n'y a que Dieu seul. Plus je suis seul, plus mon solitude est habitée, plus il n'y a que Dieu. Il y a un seul Dieu. Silence, adoration, stupéfaction. Admiration. C'est un. Il y a Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un. Je l'adore. Deux. Deux. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant et quand je rentre en Dieu, je m'aperçois forcément que Dieu est une espèce de vivifiante. Vivifiant engendrement. Dieu est vivant, donc s'il est vivant, il donne vie. Donc Dieu, il y a Dieu qui donne vie et Dieu qui vit. Il y a Dieu qui vit. Dieu qui est vivant et il y a Dieu qui donne vie. Donc il y a deux personnes. Dieu est lumière, quoi. C'est une lumière vivante. Et donc il y a forcément Dieu et lumière vivante, ça c'est le Fils. Et Dieu est sa propre source, c'est le Père. Il y a deux lumières, mon Dieu. Dieu est contemplation. Sa vie est une contemplation, c'est un face-à-face. Dieu est face à Dieu. Dieu se voit de l'intérieur. C'est une lumière surabondante d'amour. Et comme c'est l'amour, ils sont deux. Bizarre, hein? Il y a Dieu est un, mais ils sont deux quand même. Trois. Et bien, trois, c'est que ces deux-là, ils ne sont pas là comme ça. Ah, ah, ah. Non, tiens, on est deux. Alors, ils se perdent, hein, ils sont attirés l'un dans l'autre, et ils sont aspirés l'un dans l'autre, ils respirent l'un dans l'autre, ils conspirent l'un dans l'autre à mourir, à expirer l'un et l'autre dans l'unité des deux. Et de là émane Dieu tout entier, ils disparaissent. Et du coup, c'est Dieu qui apparaît. Amour. Et c'est le 3. C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans le nom de Dieu, Yod, He, Vav, He, il y a trois lettres. Yod, c'est Dieu principe unique et glorifié. Le He, c'est cette espèce d'extraordinaire, vivifiante, vie intérieure de Dieu, qui est composée d'ailleurs en hébreu comme ça, voyez, c'est comme ça, comme ça, voyez, c'est comme ça. Le hé. Ils sont deux. Et puis ça surabonde. C'est face à face, c'est intimité à l'infini. Entre eux, dans le face à face. Et puis il y a le Vav. Le Vav, c'est l'unité. Voilà. Voilà. Et bien quand Dieu lui dit. Va être reçu et dans son unité, et dans sa trinité, et dans sa lumière, et dans son amour. Il va être reçu par un quatrième qui est une capacité. Et c'est pour ça qu'il va créer la coupe. Et la coupe, c'est la créature, quoi. Le cœur de Jésus, la coupe. Voilà. La créature parfaite, c'est la blessure du cœur de Jésus. C'est ça, la créature parfaite. Le quatrième. Et vous ne pouvez pas séparer la créature parfaite du Verbe de Dieu. C'est pour ça que c'est la même lettre en hébreu. Yod, He, le Fils, Va, et puis He, blessure du cœur. La quatrième. Lettre du nom de Dieu. C'est la coupe, celle qui est capable de recevoir. La quatrième lettre de l'alphabet, c'est le D, vous savez, des, comme on dit David, etc. Hein, et le Dalet, qui est la manière de dire en hébreu 4, c'est l'ouverture, la porte d'entrée. C'est tous les sens externes, le corps est ouvert de tous les côtés. Le corps est fabriqué avec des ouvertures, avec les yeux, avec les oreilles, avec la bouche, avec fabriqué avec des ouvertures. Tout est ouvert, le corps, de l'extérieur et de l'intérieur. Par exemple, notre mémoire génétique, les génomes de l'homme, est une ouverture sur Dieu, dans l'innocence. Ne jamais oublier cette parole du pape. Tout dans notre corps est une ouverture vers Dieu, vers le prochain. C'est fou, c'est la dignité du corps, c'est pour ça que le démon a horreur du corps. Alors, quand cette création 4 s'anéantit, 0, ça fait 40 parce qu'on me pose la question, 4, 40, 153. Ne me posez pas trop de questions comme ça, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça. Donc, 40, c'est 4, c'est la création qui est glorifiée, qui s'anéantit. Quand la création s'anéantit, alors à ce moment-là, elle devient féconde. 40, en hébreu. C'est, vous savez, 40, c'est le déluge, 40 ans. Hein, vous traversez le désert 40 jours de déluge, Noé. Alors c'est le déluge. Vous êtes anéanti et du coup c'est le déluge. C'est toutes les eaux du ciel qui. Très beau, très belle icône de l'espérance. Ça, c'est vrai. Tout est anéanti de la création. Et du coup c'est le déluge qui vient du ciel. C'est fou quoi. Dans toute la création, plus rien. Génial. Vive Noé. Et nous, on est dans l'arche, on est dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, dans le cœur unique de Jésus, Marie, Joseph. Il y a un seul cœur, il y a une seule plaie, et trois cœurs. Alors, on est dans cette plaie de Jésus, du cœur de Jésus, Marie, Joseph. C'est formidable, ça. C'est formidable. Vous savez, moi, j'ai une intuition. Mais attention, je ne suis pas docteur de l'Église. C'est que Saint Joseph était stigmatisé avant. Non, mais ne le dites pas. Je ne dirai pas qui me l'a dit. Il n'a pas été stigmatisé après, hein. Donc 40, c'est ça, voyez, 40, c'est la traversée du désert qui nous arrache à ce monde de l'Égypte et nous fait rentrer dans la terre promise qui est le cœur de Jésus, l'amour du Verbe de Dieu pour son Père. C'est ça, 40, c'est cette création qui disparaît, il n'y a plus que Dieu, il est dans la gloire de Dieu. En hébreu, parce qu'il faut toujours référer à la théologie, il hein. Ne faut jamais faire les chiffres comme ça tout seul, hein. Ça se réfère à une tradition théologique. Donc 40 se réfère à la lettre M, comme Marie, Michael, Myriam. M, c'est 40, le même en hébreu. Et le même est un signe de fécondité qui vient de Dieu. C'est toujours dans le désert. Dans le désert, silence du désert, qui est la fécondité. Marie, c'est le désert de Dieu. Une chose que Marthe aimait beaucoup, d'ailleurs. Elle avait entendu un prédicateur, je vais vous dire ça. Elle lui avait dit, Ah, Père, que c'était beau. Elle avait dit, Marie, c'est le désert de Dieu. Ah, Père, c'est tout à fait ça. Ah, c'est le désert de Dieu. Mayhem, 40. C'est beau ça, la purification. Notre innocence blessée retrouve son innocence éternelle avec l'Immaculée Conception. Elle devient féconde pour nous. Elle est notre mère, c'est 40. On rentre dans le désert Et Dieu s'y trouve en surabondance et en plénitude pour nous. C'est ce que fait Joseph. Vous remarquerez que quand Moïse a pris le peuple d'Israël pour le sortir d'Égypte et l'amener sur la terre promise, vous vous rappelez qu'il a pris le corps mort de Joseph. Hein? C'est impressionnant ça. C'est le corps mort de Joseph qui est réceptacle. Qui est la condition et qui est le contenant de cette grâce-là. C'est beau, ça. Hein? 153, bon, 153, c'est un chiffre que tout le monde aime beaucoup, c'est sûr, puisque c'est un très beau chiffre. Entre le 13 mai et le 13 octobre, première apparition de Fatima, dernière apparition de Fatima, il y a 153 jours. Entre la première apparition de Lourdes, 11 février, et la dernière de Lourdes, 16 juillet, il y a 153 jours. Je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les apparitions. Quand Jésus apparaît, qui dit, vous voulez me voir ressusciter? Eh bien non, vous retournez au bateau et vous me comptez les poissons. On préfère savoir comment ça se passe après la mort, qu'on est glorifié. Non, comptez les poissons. Les pauvres, ils étaient là, allez, 1, 2, 3, pourvu qu'ils ne partent pas. Il nous a déjà fait le coup, partager le pain, et puis vite, disparu. Puis alors, là, il a vérifié qu'ils sont à la table. 153, Seigneur, 153. Bon, très bien. Il y en avait 153. Ouais. 153, on trouve 153 fois le nom d'Elohim, Yod Hev Aveh, dans le livre de la Genèse. Ah oui, ça, je suis content de savoir ça. Il y a 153 psaumes, 150 dans l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau. Répétez sans cesse par les moines et les moniales, tous les jours. 153 psaumes. Vous savez que dans 15 jours, on doit dire les 153 psaumes, quand on est moine. Mais bon, 153, c'est un chiffre sacré en Israël. Et pour les chrétiens aussi. Hein? C'est le chiffre du peuple de Dieu. La Jérusalem parfaite. C'est celle qui contient Dieu en plénitude. Toutes les formes de la présence de Dieu, 153 fois le nom de Dieu dans la Genèse, dans le peuple de Dieu. Oui. C'est pour ça que c'est la barque de Pierre, voyez, à la résurrection, qui contient les 153 poissons. Parce qu'elle ramène ces 153 poissons sur le rivage solide de la résurrection. On est sur les eaux, prenez l'eau, vous savez, ça s'écoule des mains comme le temps. Hein. Donc l'église est dans l'église du pape, elle est de Pierre, elle est dans le temps. Et elle va ramener les 153 poissons sur le rivage solide de la résurrection. Alors, et ça fait 153. Tous les saints vivent de ce chiffre. Enfin, vivent de ce que ce chiffre signifie. C'est-à-dire, ils vivent de 1, ils vivent de 3, ils vivent de 5. Ils passent de 1, c'est-à-dire ce sont des adorateurs. Ils sont unis à Dieu seul. Et leur solitude, ils n'en ont pas peur. Parce que leur solitude est habitée. La signification sponsale de leur corps est pleinement débordante de ce mariage avec Dieu. Il n'y a plus Dieu. Leur corps est animé de l'intérieur par Dieu, plus que par leur âme. Ils adorent. C'est des adorateurs. Et du coup, à un moment donné, tout éclate. Et puis, il y a trois personnes. Ils passent de l'union à Dieu à la connaissance et à la communion avec chacune des trois personnes. Et pour faire ce passage, ils passent par cinq, c'est-à-dire par la grâce, par les sacrements, par Marie, par la doctrine infaillible d'eux et par l'Église. matin, que j'ai de la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que pour passer, pour qu'on ait une créature pleinement parfaite, et qu'on veut être entièrement habité par la présence de Dieu, et que la présence de Dieu habite pleinement toutes les dimensions de notre créature, que 1 soit complètement dans 4, que 4 soit complètement dans 1, il faut pour ça une vivifiante relation entre Dieu et la créature, et cette vivifiante relation entre Dieu et la créature, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce sanctifiante. C'est la grâce. La grâce. La grâce, vous comprenez? C'est la grâce. Et la grâce est précisément ce par quoi notre espérance est rendue possible. Puisque l'espérance, c'est bien ça. C'est 153, l'espérance. Et on pourrait dire l'espérance, c'est 4. L'espérance, c'est 40. L'espérance, c'est 153. Ce serait beau, vous voyez, ce serait tout à fait rabbinique, à la manière de Saint Jérôme, de faire ça. Expliquer l'espérance à partir des chiffres. C'est là, c'est sûr. 40, c'est évident. Je crois que c'est évident pour tout le monde que 40, c'est vraiment... On passe traversée du désert avec Joseph, et puis il n'y a plus que Marie, et du coup, pour Marie, elle disparaît, il n'y a plus que la personne de Trinité, et puis c'est tout. Point à la ligne, quoi. C'est facile, ça. C'est facile. On passe de 1 à... 1, 5, 3, c'est pareil, vous voyez. C'est exactement la même chose. Bon. Qu'esprit de pauvreté.